mode d'emploi.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Claude à la technique et Gilles au micro pour vous servir. Voilà, donc une émission encore bien politique ce soir puisque nous parlerons évidemment de la conférence de presse qui s'est tenue le 28-11 2016, donc en novembre. C'est les collectifs des chômeurs qui faisaient une conférence de presse. Donc AC, MNCP, l'APES et puis bien sûr le CGT chômeurs. Nous parlerons également de ce nouveau projet donc, de l'éducation nationale, la mixité sociale et scolaire dans le cadre du multicollège. Et nous parlerons également de l'ultralibéral Fillon, donc, qui vient d'être élu par ses pairs au niveau de la primaire de la droite, avec Ludo tout à l'heure. Nous allons maintenant parler de effectivement ce projet donc multicollège qui a été concocté par le rectorat de Paris avec l'aide de la mairie de Paris qui a choisi les collèges pilotes pour cette expérimentation. Il se trouve que les enseignants n'ont pas été mis au courant, ils ont appris ça par la bande ainsi que les parents d'élèves. Ils se sont donc mis tous en grève, les enseignants principalement, et les parents d'élèves évidemment montent un certain nombre d'actions contre ce projet. Le 18e arrondissement de Paris est encore le théâtre d'une contestation fort légitime. En effet, à 5 mois de la présidentielle et 9 mois de la prochaine rentrée scolaire, le rectorat a pondu le projet multicollège pour plus de mixité sociale, encore des projets imposés qui viennent d'en haut, sans aucune concertation préalable avec les acteurs de terrain, les enseignants et les parents d'élèves. Apprenant par la bande le projet, les enseignants se sont mis en grève le 25 novembre vers 14h. Ensuite, les parents d'élèves, délégués et autres se sont mobilisés et entament plusieurs actions. Ils ont créé plusieurs blogs pour l'occasion et lancé une pétition en ligne qui compte désormais 400 signatures à ce jour. Les parents d'élèves ne sont pas contre la mixité sociale, mais contre les projets faits dans la précipitation et dans un but électoraliste. Il n'est pas question pour eux de laisser leurs enfants être des cobayes, des expérimentations pédagogiques non réfléchies, et laisser leur collège devenir un projet pilote pour plus de mixité sociale alors qu'elle y est déjà bien implantée. La ministre elle-même, en réponse à un article de l'économiste Piketty, paru dans Le Monde, déclare « On ne peut pas imposer autoritairement la mixité sociale au collège. C'est pourtant tout le contraire qui vient de se passer. » Je vous propose d'entendre M. Bonne, représentant des délégués des parents indépendants, et M. François, prof de français.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes représentant des délégués de parents pour le GIP, c'est ça?
Exactement.
Qu'est-ce que le GIP a?
Le GIP est le groupement indépendant des parents d'élèves du collège Creusvox.
Donc il y a apparemment pas mal de monde devant le collège aujourd'hui, une sorte de mobilisation contre le projet multicollège. À quoi correspond ce projet, monsieur?
C'est un projet qui a été présenté par l'Académie et la mairie de Paris, qui est un projet de mixité sociale pour réunir les collèges Berlioz et Creusvox.
Alors apparemment, la mixité sociale est une bonne chose, a priori. Pourquoi vous êtes contre aujourd'hui?
Nous sommes tout à fait pour la mixité sociale. Nous sommes des défenseurs de la mixité sociale, puisque nos enfants sont dans le collège Creusvox, qui est un collège qui représente une forte mixité sociale aujourd'hui. Enfin, nous avons fait le choix de l'école publique et de ce collège de quartier. Nous trouvons juste que ce projet a été monté à la hâte et devrait concerner plus de collèges, notamment plus de collèges favorisés.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez fait une étude sur les anciens les autres arrondissements pour savoir si dans le 7e, par exemple, ils avaient fait le même projet?
Je crois que dans le 7e, il n'y a pas eu pour l'instant de projet de mixité sociale. On a eu vent d'un projet qui a commencé dans le 16e, qui a commencé, je crois, il y a 2 ans, avec le collège Delacroix et le collège Janson de Sailly, qui a mis du temps à se mettre en place, et ça concernait le 16e, où la mixité est quand même relativement moins représentée. Alors, donc aujourd'hui, on a fait un blocage donc du collège. Ça veut dire que les enfants ont le droit de rentrer. On a prévenu les parents d'élèves hier qu'on pouvait prévenir que l'accès au collège serait bloqué par les parents. On laisse les enfants rentrer pour leur sécurité, et les enseignants, on a empêché les enseignants de rentrer. Voilà, donc ça c'est l'action d'aujourd'hui. On attend que les élus de la mairie du 18e viennent, monsieur Darula qui est l'adjoint en charge de l'éducation et monsieur le maire Eric Lejoindre. On espère qu'ils viendront se déplacer. On va rediscuter avec la direction de l'établissement, savoir qui a été prévenu de la hiérarchie de l'établissement si les gens veulent nous rencontrer également. Donc aujourd'hui, c'est cette mobilisation là, il y a une prochaine réunion de concertation qui a été organisée par la mairie et l'académie mercredi prochain, le 7, qui aura lieu au collège Berlioz. Voilà, on est, on continue les actions et on est disponible pour discuter avec les gens. On trouve juste que ce projet a été fait à la hâte, prévu dès la rentrée 2017, sans concertation aucune. Donc c'est ça qui ne nous va pas pour l'instant.
D'accord. Enfin, il y avait dans le projet trois objectifs, hein, a priori. Hein. Ils ont choisi le troisième. C'est ça.
On en est pour l'instant pas sûr. Il y a effectivement trois possibilités. Il y a ce qu'ils appellent la montée alternée avec les élèves qui feraient une classe dans un collège, une classe dans un autre. Ce qui est du coup, nous, on est totalement contre aussi également, puisque ça veut dire que les enfants changeraient d'établissement chaque année. C'est pas du tout ce qui nous intéresse pour les enfants. Les enfants sont des préadolescents et des adolescents qui ont besoin d'être dans un cadre structuré, de connaître leurs enseignants, de connaître leurs surveillants, de connaître l'équipe de direction. Donc ça, ça va pas non plus. Il y a une deuxième possibilité qui est d'avoir un établissement qui a deux niveaux de classe. C'est un autre établissement qui a deux niveaux de classe, curieux aussi. Et le troisième, c'est sur les critères de quotients familiaux, enfin des critères de tarifs de cantine qui sont déterminés par rapport au quotient familial. Donc là, pour information, les familles dites favorisées, c'est 23%, dites favorisées en tarifs de cantine, c'est 23% des élèves du collège Coysevox, c'est 0% en Berlioz. Donc ça voudrait dire qu'en fait, ils pensent créer de la mixité en divisant les 23% en deux sur les deux établissements. Ça paraît pas être de la mixité.
Merci beaucoup, monsieur.
Ils sont en train de manifester parce qu'ils veulent pas que nous on parte à Berlioz. Même nous on veut pas. Parce que Berlioz c'est pas du tout pareil que Coysevox.
Ouais,
c'est
pas très bien fréquenté. Niveau,
Là, ce qui se passe, y a une sorte de révolte parce que les parents d'élèves ils veulent pas que soit Berlioz, alors que Berlioz c'est pas du tout un collège fréquentable. Et comme il y a beaucoup de gens qui habitent à côté, ils sont mis dans ce collège après. Alors que c'est très loin, Berlioz c'est très très loin et c'est loin quand même. Mais alors du coup ça va être très compliqué pour tout.
Toi t'as pas envie d'y aller à Berlioz?
Non, franchement non. Le niveau, et en plus il y aura un gros truc, c'est que par exemple quand on ira dans notre lycée, ils vont voir qu'on est à Berlioz, ils vont pas tout de suite aimer, alors que si on a Coysevox ça va passer, alors que Berlioz ça va pas du tout.
D'accord.
Oui, bah oui.
Je suis professeur de français au collège Coysevox à Paris.
D'accord. Alors il y a un certain nombre de personnes qui sont devant ce collège en train de se mobiliser contre un projet multicollège. Qu'est-ce que c'est que ce projet exactement ?
Ce projet consiste à jumeler d'une manière qui est très très floue pour le moment le collège Hector Berlioz avec le collège Coysevox. L'idée c'est qu'il y a pour le moment un collège qui serait soi-disant favorisé, qui serait le collège Coysevox, un collège défavorisé qui serait le collège Hector Berlioz, et qu'en mélangeant les élèves, on obtiendrait deux collèges qui seraient mixtes. La seule chose déjà qui nous semble fausse, c'est qu'en fait en réalité le collège Coysevox est déjà un collège mixte. Le collège Hector Berlioz ne l'est effectivement pas, donc il faut effectivement lui introduire de la mixité dans celui-là, mais on pense qu'à l'échelle de deux collèges, ça ne peut pas fonctionner en fait. C'est-à-dire que les collègues ici et les parents sont fondamentalement pour la mixité sociale, mais il nous semble que les pouvoirs publics, l'académie devraient faire un autre choix, c'est-à-dire qu'on devrait s'orienter vers un secteur multicollège, c'est-à-dire qu'on devrait brasser la population de plusieurs collèges favorisés, hein, avec des collèges défavorisés, qu'il y aurait une chance que ce dispositif fonctionne. C'est-à-dire que là, le projet nous semble extrêmement mal ficelé, il nous semble fait de manière totalement hasardeuse.
À la hâte, peut-être, non ?
Pardon ?
Un peu à la hâte, peut-être ?
Très à la hâte, pour des raisons qu'on ne comprend pas vraiment, sans concertation, bien que le mot soit utilisé à longueur de temps. Hein. Pour le moment, on a juste des informations qui nous arrivent verticalement et qui nous arrivent par des moyens qui sont les plus étonnants, puisque, vous voyez, on nous a caché une réunion qui avait lieu avec les parents le mercredi la semaine dernière. Nous, on a été prévenus le vendredi. Alors, bien évidemment, des parents d'élèves nous avaient prévenus, mais les parents d'élèves n'avaient pas imaginé une seule seconde que les professeurs n'étaient pas associés à la réflexion sur un tel projet, qui est intéressant, mais pas sur ce mode-là, pas sur ce mode opératoire.
Alors, au niveau national, le collège Berlioz, au niveau des brevets des collèges, fait 43% à peu près de mémoire.
Ouais.
Coysevox, c'est 80%, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que ça veut dire que s'il y a une mixité entre les deux collèges, le niveau des deux collèges va baisser ?
Les élèves, c'est pas de l'eau. On peut mélanger de l'eau chaude et de l'eau froide et on fait l'eau moyenne. Avoir des élèves en classe, c'est autre chose. Ce sont des équilibres beaucoup plus fragiles. Hein.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est que vous étiez effectivement pas associé au projet dès le départ et que même les parents d'élèves et même l'ensemble du corps professoral a été mis sur le fait et donc le projet est presque bouclé là pour le coup.
Alors, il est presque bouclé, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on a rencontré Monsieur Luc Femme hier qui est le DAZEN, qui représentait l'Académie. Il semblerait que nos politiques aient fait des choix. Donc, c'est-à-dire le jumelage entre Berlioz et Coiseau a été décidé par la mairie. Donc, lorsqu'on lui a parlé, par exemple, d'un secteur multicollège, il a dit qu'il ne voulait pas répondre, puisque lui était là pour appliquer des décisions politiques qui avaient été déjà décidées. Donc, en fait, la seule concertation est sur le mode de fusion des deux établissements. Pour faire vite, il y a deux scénarios qui correspondent à une fusion des deux établissements en tant que tel, et vous avez un scénario qui est une sorte de fusion de la carte scolaire.
D'accord.
Voilà.
Et la fusion de la carte scolaire, ça comprend quoi ?
Ça veut dire qu'en fait, les parents pourraient faire des vœux sur l'affectation de leur enfant en CM2, donc soit Coiseau, soit Berlioz. Et ensuite, en fonction des vœux reçus par les parents, il y aurait une sorte d'algorithme qui rééquilibrerait, enfin, ce qui fait donc que certains parents ne verraient pas leurs vœux satisfaits, un algorithme qui prendrait en compte le quotient familial, les CSP et également la distance entre l'établissement et le domicile.
D'accord.
Voilà comment après il récompenserait de manière à avoir ensuite des collèges qui seraient parfaitement équilibrés sur le plan des CSP.
Ça paraît pas mal ça pour le coup, non ?
Oui, oui, bien sûr, mais encore une fois, je crois que c'est un problème d'échelle. Coiseau ne peut pas. Le mélange des populations de Berlioz et Coiseau ne nous semble pas viable.
On a quand même depuis les années 60 fait des ghettos dans le 18e arrondissement aussi, évidemment. Et donc maintenant, en fait, on va payer un petit peu ce phénomène par cette mixité. Qui est plutôt moins électoraliste.
Le projet n'est pas réfléchi, en fait. C'est l'unique problème. Et la précipitation donne le sentiment qu'effectivement, le seul calendrier qui compte, c'est celui des élections présidentielles de cette année. On a un gouvernement qui veut nous faire oublier tout ce qu'il a fait pendant 5 ans en se réveillant. Et, mixité sociale, nous sommes socialistes. Nous allons la mettre en place. Mais encore une fois, nous sommes pour cette mixité sociale, mais nous voulons une mixité sociale qui fonctionne.
Mais
ici, on n'a pas un projet qui va fonctionner. C'est ça l'unique problème.
Je vous remercie beaucoup. Les arguments des enseignants du collège Coisevox. Le collège Coisevox est déjà un établissement mixte. On peut souhaiter qu'il le soit davantage. Il nous semble toutefois totalement aventureux de lui faire absorber tout seul les problèmes qui existent au collège Hector Berlioz. Nous sommes persuadés que ce rapprochement bicollège ne peut conduire à terme qu'à deux collèges dysfonctionnels. La brutalité d'un rapprochement aussi resserré dans le temps entre le collège Coisevox et Berlioz va créer une fuite massive des élèves, dont les parents ont les moyens, vers l'enseignement privé, qui concentre déjà un nombre d'élèves importants issus de classes sociales favorisées. Le rapprochement des collèges Gérard Philippe et Marie Curie suscite les mêmes angoisses et réactions. Il n'y aura pas de mixité sociale à l'échelle de deux établissements. On perdra la mixité sociale déjà réelle à Coiseau. Nous sommes donc favorables à la réalisation d'un véritable secteur multicollège permettant de brasser les populations non pas de deux collèges mais de 3 ou 4, ce qui a l'avantage de permettre le plus grand mélange de populations et de déterritorialiser certains conflits. De nombreux problèmes à Berlioz sont liés à l'environnement immédiat. Les déplacer à Coiseau ne changera rien. On se contenterait de les déplacer. Les établissements sont, de ce point de vue, trop proches et il n'y aurait pas de mélange suffisant pour supprimer les logiques de bande. Les personnels refusent d'entamer une réflexion sur les différents scénarios de fusion d'établissements tant que les questions soulevées précédemment ne trouvent pas de réponse. Elles nous semblent prématurées. Nous sommes sensibles, comme vous, à l'attachement des élèves pour leur collège et à leurs besoins de repères. Nous y ajoutons le souci de l'organisation des services des professeurs sans lesquels l'école ne peut pas se dérouler dans les bonnes conditions. Fermez le banc.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui... En voiture et en bateau.
Et oui, c'était un texte de Prévert chanté par
les frères Jacques,
merci, j'ai un trou. Très bien, cette émission reprend, on est sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Je suis toujours avec Ludo au micro.
Bonsoir.
Claude à la technique. Alors juste une petite question Ludo, je vais te mettre à contribution, on va faire un petit jeu par rapport à la mixité sociale dans les établissements qui sont mis en... Voilà, parce que la maire de Paris a pris, apparemment a pris des établissements binômes. un collège dans une ZEP ou REP+, hein, maintenant ça s'appelle REP+, hein, et un collège un petit peu à l'écart qui est un peu moins ZEP, qui n'est d'ailleurs pas classé ZEP, et là à proximité, et là ils vont faire une fusion entre les deux collèges. Apparemment le projet concerne 8 collèges, peut-être 10, attends, 2, 4, 6, 8, oui, 8 collèges. Donc il y en a 4 dans les 8e.
Dans tout Paris.
Donc il y a 3 arrondissements qui ont été choisis, dont le 18e. À ton avis, quels sont les deux autres?
19e et 20e.
Exact. Bah, t'es perspicace. Bah, bravo. C'est pour ça que je t'ai embauché.
Mais alors, il n'y a pas de ZEP dans le 16e, peut-être?
Il n'y a pas de ZEP dans le 16e et pas dans le 7e. Bravo. C'était effectivement.
Mais peut-être dans le 17e.
Comme nous sommes tout à fait soutien de ce ras-le-bol des enseignants et des parents d'élèves, en tout cas, moi, je le suis, puisque je suis parent d'élève, on va quand même citer les collèges qui sont concernés. Donc, il y a le collège Gérard Philippe dans le 18e arrondissement, le collège Marie Curie, toujours dans le 18e, le collège Antoine Coise-Vox, et le collège Hector Berlioz dans le 18e également. Il y a le collège Édouard Payron dans le 19e, le collège Henri Bergson, on a des souvenirs de ce collège, hein, également dans le 19e, le collège Hélène Boucher et également Maurice Ravel dans le 20e. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, les décideurs ont choisi, donc avec la maire de Paris, la mairesse, de prendre que des collèges dans les quartiers les plus mixés de Paris pour faire plus de mixité sociale et pas du tout dans les quartiers, effectivement, où le 7e, le 16e, etc. Donc, évidemment, nous tiendrons éventuellement les auditeurs informés de la suite des événements. Des actions, il y en aura certainement encore. Donc, on va finir sur ce sujet. On va passer à un sujet un peu plus difficile, en fait, à traiter, puisque c'est toujours le problème des chômeurs. Nous sommes dans cette émission présents sur cette antenne depuis maintenant 20 ans. Effectivement, donc, c'est la conférence de presse des collectifs des chômeurs. Et donc, on va écouter les premiers sons de cette conférence de presse.
Je vous remercie d'être présent. Vous avez Claire pour le mouvement national chômeurs précaires. À ma gauche, pour la PACE, Philippe Villechaval.
C'est la 14e conférence de presse qui précède la 14e manifestation contre le chômage et les précarités pour la justice sociale. C'est une manifestation qu'on a voulu justement parce que, pour ce qui nous concerne, contre le chômage et les précarités, ça porte aussi la vie des chômeurs. Il s'agit, bien évidemment, ça passe en grande partie par des créations d'emplois, mais on a voulu faire autre chose qu'une manifestation pour l'emploi, parce que dans le quotidien, la vie des chômeurs, c'est des urgences en permanence, des tracasseries, pour le dire gentiment, administratives, avec le lot de radiations, de trop-perçus demandés par Pôle emploi et tout, et donc nous, on est de ceux qui pensons que pour s'attaquer durablement aux causes, il faut partir des effets. Et donc, cette manifestation, elle s'inscrit complètement dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'il faut régler les choses, mais il faut partir de la vie des gens. Et quand des gens sont aujourd'hui en situation de survie, dont certains restent longtemps et beaucoup au bord de la route, ça ne nous convient pas. Cette manifestation ne concerne pas que les chômeurs. C'est une manifestation qui concerne l'ensemble du monde du travail, d'abord parce qu'on ne sait pas à quelle sauce les uns et les autres vont être mangés, mais aussi parce qu'on sait bien que le chômage, il a un poids politique, un poids économique, un poids social, et qui pèse considérablement sur le niveau des salaires, sur les conditions de travail, enfin voilà. Et donc cette manifestation concerne tout le monde. Avant de passer la parole à mes amis, je voulais rappeler quelques revendications, parce qu'elles sont malheureusement fort nombreuses, tant les difficultés sont prégnantes, mais la première chose qu'on demande, alors c'est pas automatiquement dans l'ordre, hein, parce que là, sinon je dirais que la première chose qu'on demande, c'est un emploi correctement rémunéré, socialement utile, enfin voilà, bien sûr, mais première chose qu'on demande dans la vie qui est faite aux chômeurs, c'est l'arrêt des contrôles, des radiations et des trop-perçus. Aujourd'hui, Pôle emploi dysfonctionne complètement et donc des gens se retrouvent avec des trop perçus à rembourser alors qu'ils ne sont pas responsables du calcul de leurs indemnités. Ils sont convoqués aujourd'hui pour le lendemain ou même ce matin pour cet après-midi et donc ils ne s'y rendent pas, ils sont radiés et tout ça, ça plonge des gens vers l'extérieur d'un système qui est déjà bien affaiblard et donc on demande ça. On demande aussi c'est un petit peu tous les ans, mais une allocation exceptionnelle d'urgence, dite prime de Noël, pour plus de facilité, Enfin, prime de Noël, ça nous semble quelque chose qui concerne des gens qui sont déjà dans un mouvement d'inclusion. Nous, quand on demande la prime de Noël, c'est parce que c'est une période quand on vit avec 500 euros par mois ou même un peu plus. 524 euros, c'est le montant du RSA pour 2 500 000 personnes aujourd'hui. Hein. Quand il a été créé, le RMI, on était à 1 200 000. C'est-à-dire qu'on a doublé entre la mise en place du RMI, entre la fin du RMI et aujourd'hui le RSA. Donc vivre avec 524 euros par mois ou quelques centaines d'euros en plus quand on est indemnisé par le chômage, c'est tous les jours un parcours du combattant, toutes les semaines un parcours du combattant, tous les mois un parcours du combattant. Et que les questions, comme des questions de la vie, c'est-à-dire des anniversaires, des vacances, eh bien, elles sont mises à mal, elles sont broyées, elles n'existent pas dans les perspectives que peuvent avoir les chômeurs. Et Noël, c'est un moment particulier où les gens se retrouvent en famille, entre amis, pour certains, on fait des cadeaux aux enfants. Pour les chômeurs, c'est pas possible. Donc cette prime, elle n'est pas un cadeau comme ça. Un enfant qui va rentrer à l'école au mois de janvier, s'il n'a pas eu de cadeau, d'ailleurs on reproduit des schémas de domination qui font que ça risque de perdurer longtemps. Et enfin, une autre des revendications, c'est la réouverture des négociations de l'assurance chômage. On aura des nouvelles dans quelques jours certainement. Là, je crois que le 6, il y a une réunion préalable. Mais ça, Marc nous en dira plus. Mais simplement, je voudrais... revenir sur la volonté du MEDEF dans toute cette bagarre-là et dans l'organisation que représente aujourd'hui l'UNEDIC. On nous dit que les négociations sont difficiles et qu'il faut revoir à la baisse l'indemnisation du chômage, enfin des chômeurs, la durée d'indemnisation, parce qu'il y a un déficit. Il faut quand même prendre le temps de regarder que le déficit, il est créé de toutes pièces. Il n'existe pas le déficit dans les faits, puisque les cotisations salariales et patronales, de mémoire, les cotisations salariales, c'est 2,4%. Les cotisations patronales, 4%. Donc on a un total de 6,4% qui rapporte chaque année 35 milliards d'euros dans les caisses. L'indemnisation des chômeurs, qui sont moins de 50% à être indemnisés, il faut le rappeler, il y a 6 400 000 chômeurs dans toutes les catégories, et il y en a 2 700 000 seulement qui sont indemnisés, totalise 34 milliards. Donc il y a des excédents à l'UNEDIC. Le problème qu'on avait déjà soulevé au moment de la fusion des ACEDIC et de la NPE, c'est qu'aujourd'hui, l'argent de l'UNEDIC sert en partie à financer Pôle emploi. Il y a tous les ans 3 milliards d'euros qui partent à Pôle emploi pour financer des salaires. Et donc il n'y a pas de déficit sur l'indemnisation du chômage, les cotisations se suffisent à elles-mêmes.
Et puis les camarades sont d'accord avec moi. Depuis des années, on fait payer aux plus pauvres, aux chômeurs et aux précaires des pseudo-crises dont ils ne sont absolument pas responsables. Il y a, derrière tout ça, il y a aussi la casse du service public. Et c'est de plus en plus compliqué d'aider les gens parce qu'il faut faire. On a de plus en plus besoin de connaître le droit pour aider les gens, alors que ça, c'est pas normal aussi. Il y a des gens qui sont dans des situations terrifiantes, qui ne peuvent plus rien payer, qui se retrouvent à la rue. On est aussi débordé par ça. Et les politiques savent très bien ce qu'ils font à ce niveau-là, c'est-à-dire que On a l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui passe sur les gens et que en fait c'est véhiculé aussi par les médias, c'est-à-dire que nous, si on n'est pas là pour dire les choses, et ben les médias entre guillemets passent la soupe, hein, et en fait créent une image des chômeurs, des précaires qui n'est pas réelle. Et par des effets d'annonce qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je pourrais donner un exemple, par exemple, sur les formations. Les 500 000 formations, c'est une vaste fumisterie. Hein. C'est, la réalité n'est pas là. Hein. Il y a plein d'emplois dits en tension qui ne sont pas pourvus. Les gens ne sont pas en formation et on s'en fiche. C'est le système de la débrouillardise pour tout le monde. Et il faut savoir aussi que personne n'est à l'abri. En France, il y a encore le système est encore au CDI. Enfin, il paraît que les travailleurs, la majorité est encore en CDI, mais on est dans une précarisation totale de la société. Il y a un livre, je ne sais plus l'auteur, mais ça s'appelle Les Nouveaux Prolétaires. J'ai l'impression que la société a aussi un métro de retard par rapport à ça, c'est-à-dire que tous les systèmes de ces sortes de nébuleuses de précarité, l'indemnisation ne suit pas. C'est-à-dire que vous avez par exemple des assistantes maternelles qui ont 3-4 emplois dans le mois et en fait elles sont dans des situations où derrière on ne les indemnise pas. Parce qu'en fait, en face, je dis pas, il y en a qui ne sont pas préparés à ça, et il y a ceux, les politiques savent très bien ce qu'ils font, eux sont préparés, mais ne veulent pas qu'il y ait de changement à ce niveau-là. Évidemment, la manifestation de décembre qui se fait depuis des années, normalement, entre guillemets, on dirait un marronnier, hein, ça revient tout le temps, etc. Mais elle est nécessaire aussi pour que nous, on ait une visibilité par rapport à l'extérieur. Parce qu'on fasse aussi un contrepoids. En face, ils ont plus d'outils médiatiques que nous. Bon, ça, on a la conférence de presse aujourd'hui. Mais il y a comme un déséquilibre, en fait. Hein. Donc, nous, on veut aussi faire contrepoids. Comme disait Marc, être dans tous les endroits où on parle de nous. Parce que c'est aussi inadmissible que l'on dessine à notre place. Et c'est un peu facile aussi, hein, de leur part. Et voilà. Donc, il faudra continuer à se battre pour ça, parce qu'il y a des situations... on le voit sur le terrain, des situations qui sont terrifiantes et qu'on masque par du discours complètement inepte et insignifiant. Voilà.
À peine sortis du berceau, nous sommes allés faire un saut au boulevard du temps, ses cheveux et l'autre avait les tempes grises. Nous avons constaté soudain que l'été de la Saint-Martin n'est pas loin du temps des cerises.
Donc vous êtes toujours sur Fréquence Pas Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Vous venez d'entendre donc le MNCP et la PES et nous allons bientôt entendre, même maintenant, AC et la CGT chômeur.
Moi, je suis chargé de rappeler. Alors, participe à AC, Agir ensemble contre le chômage. Et l'idée, c'était de faire un petit rappel sur les histoires d'assurance chômage, en sachant, comme Philippe le disait, le 6 décembre, on devrait y voir plus sur une possible réouverture des négociations. Pour revenir en arrière, vous vous souvenez peut-être qu'il y a un an, le gouvernement s'engageait envers la communauté européenne à ce qu'il y ait les dépenses de l'assurance chômage soient réduites de 1,7 milliard d'euros sur 2 ans. Ça, c'était en octobre. En janvier, avant l'ouverture des négociations, le président Hollande fait une merveilleuse déclaration devant les partenaires sociaux en présentant ses vœux et en affirmant que le système d'assurance chômage est en France généreux. En général, c'est plutôt les gens de droite qui disent ça. Lui, responsable au gouvernement, fait cette déclaration-là en même temps qu'il annonce le plan de 500 000 formations dont Alain va nous parler dans un instant. Puis les négociations débutent. Enfin, elles sont très longues parce qu'à ce moment-là, le MEDEF et le patronat est en embrouille avec le gouvernement sur la question des accords de pénibilité. mais aussi parce qu'il y a des contradictions internes au patronat. Et puis assez rapidement démarre la mobilisation contre la loi travail, qui va être dont le bilan est compliqué, mais en tout cas ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une grande force dans la rue, qui a eu comme avantage immédiat d'empêcher des accords de couloir qu'on aurait dû dénoncer par la suite. Et au total, la négociation arrive à un échec, notamment parce que le patronat, le 30 mai, fait une proposition totalement inacceptable, même pour les organisations les plus réformistes, puisqu'il est question de faire payer uniquement aux salariés au chômage la réduction des dépenses. Leur proposition, elle est particulièrement vicieuse, puisqu'ils introduisent un coefficient d'intensité au travail qui s'applique pas uniquement aux précaires, mais à l'ensemble des chômeurs, des personnes qui vont se retrouver au chômage, et aurait eu pour conséquence, heureusement ça a été mis à la poubelle, mais qui aurait eu comme conséquence, sur leur base, et ils l'écrivent, hein, d'augmenter la durée minimale pour avoir droit à l'assurance chômage, ça passait de 4 à 6 mois, de réduire les durées d'indemnisation et de réduire fortement les montants des chômeurs indemnisés. Heureusement, grâce à la mobilisation du printemps, cette proposition inacceptable n'a pas pu trouver de complice et s'est retrouvée à la poubelle. Les négociations ont donc échoué, mais ce qui est une bonne chose, hein, grâce à cette mobilisation des salariés pour leurs droits en général, contre le refus de la précarisation de l'emploi encore. Et ça a donné, comme on le sait, une prorogation de la convention de 2014 avec intégration de l'accord qui avait été négocié au niveau des intermittents. Et là aussi, c'est une bonne chose, puisque ça rétablit des droits pour lesquels ils se sont battus. Voilà. Donc, échec pour eux. Et on aurait pu en rester là. Dans les choses qui étaient en question, c'était quand même de savoir comment l'Europe allait réagir au fait que le gouvernement s'assoyait sur ses engagements. Mais à l'époque, en juin, on était encore sur l'idée que l'alignement des planètes, enfin bon, le coût du pétrole, tout ça, ça allait forcément... la situation économique allait forcément s'arranger. Et il n'y avait pas trop d'inquiétude sur les engagements, enfin, d'inquiétude par rapport à l'Europe, sur les engagements pris par le gouvernement français. À la rentrée, les choses sont passées un petit peu différemment, notamment parce que les choses se compliquant, le Brexit, différentes choses, on a vu l'Europe dans un premier temps se tendre et vouloir exiger que le gouvernement tienne ses engagements. Heureusement pour le gouvernement, et finalement ça a peut-être des bons aspects pour nous, il y a quelques jours, quelques semaines, comme vous avez vu, la thèse du déficit budgétaire qui ne dépasserait pas les 3% a été validée par Bruxelles. Le gouvernement n'a donc plus la pression. Et lui qui, le 2 octobre, s'engageait à prendre des mesures si jamais les partenaires sociaux ne faisaient pas le boulot, finalement, se calme sur le sujet et a moins de raisons d'agir. Une autre variable à la rentrée, c'était l'apparition le début de la campagne électorale des candidats de droite et du centre, et pas uniquement, qui ont mis en cause assez rapidement le paritarisme, sa capacité à gérer l'assurance chômage, et puis le fait qu'il faudrait taper dans les droits pour réduire les coûts, pour réduire à terme le salaire. Le MEDEF a été très clair sur le fait que ce qui les intéresse, c'est pas tellement la question du déficit, mais c'est la question du réduction du montant des salaires, réel, quoi. Voilà. Alors, les premiers mois de septembre ont été consacrés à des rendez-vous au ministère, des prises de parole du MEDEF, qui peu à peu a affiné sa position. Et comme vous l'avez vu, fin novembre, a envoyé un courrier aux partenaires sociaux leur proposant de reprendre des négociations en deux temps. D'une part, un temps de bilan pour vérifier à 20 ans ce que donnerait l'évolution de l'emploi et comment l'assurance chômage pourrait accompagner les efforts des entreprises pour créer des profits qui se transformeraient en emploi et qui forcément amélioreraient notre sort à toutes et tous. Et par la suite, qui devait déboucher sur des négociations. Là, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. En tout cas, on invite à surveiller cette date du 6 décembre, qui pourrait être une date de mobilisation, mais qui est en tout cas à surveiller pour son importance. Et parce que si on comprend bien comment les choses se posent côté entreprise, Philippe l'a rappelé, il y a moins de la moitié des chômeurs qui sont indemnisés pour des montants très bas. Ceux qui ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage dispose de revenus encore plus bas pour ceux qui ont droit aux minima sociaux, et puis il y a tous ceux qui ont droit à rien. Alors nous, on rappelle donc ensemble, hein, la nécessité d'indemnisation de toutes les formes de chômage et de précarité, par la garantie d'un revenu personnel. On rappelle que les minima sociaux sont basés sur les revenus du foyer et pas sur la situation de la personne. Le revenu personnel, ayant le SMIC pour référence, puisque entre nous, on a des appréciations différentes, mais on est clair sur le fait que l'allocation chômage ne doit pas être, doit être proportionnelle au SMIC. Côté AC, nous, on est pour que ça soit au minimum au SMIC. On a cette position commune. On rappelle aussi la nécessité de la présence des chômeurs et précaires partout où se décide leur sort. Les négociations assurance chômage se tiennent entre des gens qui ne sont finalement pas élus. Il n'y a jamais d'élection. Il y a de temps en temps des élections à la sécurité sociale. Il n'y en a jamais eu à l'UNEDIC. Les gens qui sont là sont contrôlés au mieux par leur organisation. En tout cas, il n'y a pas de, il n'y a pas de démocratie sociale au sens où on la voudrait. On rappelle aussi l'importance du libre choix de son emploi et de sa formation. Et puis la nécessité de la justice sociale. Parce que comme le rappelait Philippe, de l'argent, il y en a. L'indemnisation chômage, c'est quelque chose qui est un droit constitutionnel. Enfin, le droit à revenu de remplacement est inscrit dans la Constitution. Et il faut des moyens derrière. Et il ne s'agit pas de nous faire payer, nous les salariés, notre propre protection. Pourquoi on se retrouve au chômage? On ne gère pas les choses. Ceux qui décident sont au pouvoir. Nous, on est au mieux dans la rue. Et il est hors de question de payer plus encore.
Déjà rappeler que la Confédération CGT a lancé un appel jeudi, hein, appelant l'ensemble des salariés, retraités ou privés d'emploi, enfin l'ensemble des syndiqués de la CGT à participer à ce 14e mouvement national contre le chômage. Rappeler aussi que la priorité, bien entendu, c'est le retour à l'emploi avec le salaire qui pourrait aller avec. Voir que depuis, on a eu la période Sarkozy, on a vu les chiffres du chômage augmenter, on a eu la période Hollande, avec une super déclaration sur inverser la courbe du chômage, on voit ce qu'il en est. Il n'y a pas d'inversion de courbe du chômage, il y a juste un timide bruissement. Mais avec les chiffres, on fait ce qu'on veut. Je dirais simplement que il y avait la formule magique des 500 000 formations. On peut témoigner aujourd'hui, effectivement, nous, au niveau de la CGT, on fait la chasse aux formations bidons. Autrement dit, on a eu un exemple dernièrement sur Paris, un institut de formation qui s'appelle l'ISP Formation dans Paris 20e, pour lequel on a fait un rassemblement la semaine dernière, qui effectivement, la grande majorité des organismes privés Pôle emploi déléguant effectivement les formations arrivent à... C'était effectivement la manne financière qui les intéresse. On fait du remplissage. On voit que les conditions à la fois d'accueil des stagiaires, y compris la pédagogie et y compris les lieux d'accueil, sont vraiment d'une vétusté incroyable. Et ça, ça fait partie du plan 500 000 formations. Alors, il y en a plein qui se sont jetés dessus, évidemment. Si on prend une moyenne de 5 000 euros par stagiaire, forcément, les choux gras sont bien arrivés avant Noël. Nous, on voit les choses comme elles se sont produites depuis 14 années. On voit bien que là, ça bouge pas trop. On est dans une période compliquée pour l'emploi. Là, actuellement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 165 000 offres sur le site de Pôle emploi. Donc, c'est à peine 10% des 6,5 millions qui sont effectivement inscrits. On nous annonce une période plus répressive en 2017, puisqu'on rentre dans une période électorale, et j'apprends rien à personne, et on a quelques candidats qui annoncent effectivement, notamment, de revenir dans les années 90 avec la fameuse AUD, l'allocation unique dégressive, qui rend le chômeur, bien évidemment, dans la précarité la plus totale au bout de 12 mois d'indemnisation. C'est pas cette mesure, quelle qu'elle soit usitée par n'importe quelle candidate ou candidat, c'est pas cette mesure qui donnera de l'emploi. C'est avant tout aux entreprises de créer les conditions pour créer de l'emploi. Et aujourd'hui, on voit bien
que la main des nombres de chômeurs qui sont sur le marché du travail, entre guillemets, ça permet effectivement aux chefs d'entreprise de maintenir de bas salaires, à commencer par le niveau du SMIG et les salaires intermédiaires, on va dire 2000-2500 euros. Effectivement, les gens, malheureusement, ne peuvent pas voir aboutir sur des choses plus intéressantes au niveau financier, ce qui éclairose complètement l'économie. Donc on est un petit peu sur cette chose-là. Donc effectivement, on invite massivement les salariés qui sont précaires, les chômeurs et d'autres personnes effectivement à venir sur le mouvement du 3 décembre, sachant que l'année prochaine, ça sera peut-être encore un peu plus compliqué. Donc dès maintenant, il faut jeter dans la bataille de contester ce qui se passe. Et on espéra effectivement qu'il y ait plein de gens qui soient présents le 3 décembre, place Stalingrad. D'ailleurs, pour la presse ici présente, on vous invite bien évidemment à venir et à relayer effectivement nos revendications, qu'elles soient de domaine syndical en ce qui concerne la CGT ou de mes camarades des associations ici présentes.
Comité réduit, foule immense, qui ce soir de votre présence me faites le don et l'amitié. Ça c'est le refrain et c'est notre slogan. Aïe, le travail, gros malheur.
Et oui, le gros malheur, le travail, et le chômage, c'est gros malheur aussi. On va reprendre cette émission. C'est l'émission de mode d'emploi des chômeurs et précaires sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Je suis avec Ludo au micro. Salut.
Bonsoir.
Ludo. Claude à la technique et moi-même Gilles également dans cette émission depuis avec Ludo fort longtemps. On va reprendre cette émission pour parler bien sûr de Monsieur Fillon qui a gagné les primaires. Il y a une autre grande surprise. Alors à ton avis, toi, tu as suivi un peu les débats de la primaire à droite. Est-ce que là nous allons vers une casse sociale généralisée?
Alors oui, très clairement. Et je n'hésite même pas à dire que c'est le pire des trois qui a gagné, ouais. Et très très largement, ce qui augure pas, ce qui est pas de bon augure pour nous, enfin pour les chômeurs, hein, je veux dire. Voilà. Alors j'avais dit à la précédente émission que Juppé était probablement le candidat le plus détesté de la droite et que si jamais il était élu, ce serait par défaut. Et ça, c'était avant donc les deux tours de la primaire. Donc il a été évidemment largement battu parce qu'effectivement, il était jugé comme trop étatiste en fait, trop interventionniste par le patronat en fait au sens large, qui se souvient des années Juppé, donc du plan Juppé, mais surtout de l'augmentation de la TVA que personne en fait n'avait apprécié, et un petit peu comme Hollande, des augmentations d'impôts, TVA plus impôts, un petit peu comme les années Hollande là. Donc voilà, donc si vous demandez l'avis d'un patron Juppé, ben bof, voilà, donc ça s'est confirmé. Et et donc effectivement, on a un candidat qui est donc un chrétien. Je ne peux pas m'empêcher. Pourquoi je dis ça?
Un chrétien démocrate, j'espère quand même.
Alors justement, je ne sais pas s'il est démocrate, je ne sais pas s'il prendrait l'étiquette chrétien démocrate. Mais par contre, il y a quelque chose qui est important dans son programme économique, c'est que vous vous souvenez que François Fillon était un le père de François Fillon, c'était Séguin, c'était Philippe Séguin, le père politique entre guillemets. Et donc, il incarnait le gaullisme social, voilà, le soutien aux pauvres, tout ça. D'ailleurs, il a été ministre des Affaires sociales dans le premier gouvernement de Raffarin. Et donc voilà. Et or, il s'est depuis, ça ne nous a pas échappé, converti au néolibéralisme, en quelque sorte. C'est-à-dire néolibéralisme, pour dire le vite, la rigueur. L'amaigrissement de l'État. Et donc il n'y a pas plus pire zélote que les convertis. Et donc monsieur Fillon appartient à cette catégorie, c'est que c'est un convaincu par l'idéologie ultralibérale. Il se revendique de Margaret Thatcher, et en tant qu'ancien gaulliste social, il faut forcément lui rappeler que le thatcherisme a un coût social dans les premières années, qui est très important.
Très cher, ouais.
Et donc, d'ailleurs, l'Angleterre ne s'est pas totalement remise.
Voilà.
Et donc, à cause sociale, à commencer par les chômeurs, les inactifs, enfin en tout cas de tous ceux qui bénéficient des allocations sociales, les smicards, les travailleurs. Et donc, quand, pour répondre à ta question, est-ce qu'on va vers une casse sociale? Moi, je réponds oui sans hésiter. Et je le dis très clairement, donc pour les chômeurs, puisque c'était, on en parlait tout à l'heure, Monsieur Fillon est favorable au retour de la dégressivité au bout de 6 mois seulement.
Ah, oui.
Alors, il se garde bien de chiffrer par rapport à Alain Juppé, parce qu'Alain Juppé était malgré tout un peu plus modéré, c'était au bout d'un an. Et c'était donc moins 25% de l'allocation, ce qui est quand même pas mal. Et au bout de 18 mois, encore moins 25%, mais dans la limite de 870 euros par mois, ce qui pourrait correspondre plus ou moins aux minima sociaux, en fait, hein, au sein des minima sociaux. Donc c'était plus modéré parce que Fillon ne donne aucun chiffrage et on peut craindre, au bout de 6 mois, une politique assez, assez rude. Alors c'est pas le seul souci, c'est le plafonnement des minima sociaux. C'est-à-dire très nettement en dessous du SMIC et probablement à 75% du SMIC, donc en la création d'une allocation unique pour les minima sociaux, y compris l'allocation logement. Donc ça risque là ça va être dur, hein, ça va être une baisse de pouvoir d'achat important. Enfin, on peut même pas parler de pouvoir d'achat pour ces catégories là, quoi. C'est-à-dire c'est des gens qui sont au seuil des subsistances.
700 euros à peu près, 75% du SMIC net.
Oui, c'est ça. C'est 700, grosso modo 700, 800. C'est ça, voilà, c'est à peu près ça. Oui, c'est le SMIC est à 1200. Alors,
net.
Il est à 1000. Alors, il est à 1400 brut,
c'est ça, brut.
Donc moins 25%. Bon, alors, il faut quand même voir le contexte dans lequel va s'appliquer ce programme, hein. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui donc 10% de chômage, on le sait, ça, tout le monde est bien au courant. En fait, en réalité, plutôt 12 que 10, en fait. Et surtout, la dégressivité, hein, pour prendre un exemple, la moitié, un chômeur sur deux, n'est pas indemnisé, comme le rappelait l'intervenant. Et dessus, entre un tiers et la moitié des chômeurs sont des chômeurs de longue durée. C'est vous dire les dégâts qu'ont fait la crise. Et donc, c'est-à-dire que c'est des chômeurs qui, à un moment donné, ne bénéficient même plus de l'allocation, de l'indemnité du chômage, et donc sont aux minima sociaux. Et c'est dans ce contexte-là que bah, on va punir les chômeurs puisque au bout de 2 offres d'emploi, ils ne bénéficieront plus d'allocation chômage. Or, quand vous voyez les emplois qu'on voit la NPE, c'est-à-dire qu'ils ont en réalité assez peu de choses à voir avec la qualification première du chômeur, ça fait un peu peur, hein, qui parfois n'ont rien à voir du tout. Alors ça, bon, ça c'est pour les minima sociaux et les chômeurs. Et je passe aux salariés maintenant.
Oui, alors justement,
En faisant très très vite. Hein.
La dérégulation du travail. Alors
du code du travail. C'est-à-dire que tu oublies la loi, vous oubliez la loi El Khomri parce qu'elle était quand même trop généreuse.
C'est vrai.
Il paraît, enfin selon lui en tout cas. Et donc on va revenir à un code du travail minimal centré sur les droits fondamentaux du travail. Alors un droit fondamental du travail, qu'est-ce que c'est, Gilles, par exemple?
Bah, je ne sais pas, je suis là pour apprendre.
Tu ne sais pas, non. Eh ben, le droit minimal fondamental, c'est ne pas travailler plus de 48 heures par semaine. C'est ça, c'est la norme européenne. C'est un exemple. Et du coup, la logique suit, c'est négociation des 35 heures au niveau des entreprises.
Au cas par cas.
J'ai bien dit au niveau des entreprises, hein. Donc voilà, avec tout le chantage à l'emploi que ça induit, dans la limite de 48 heures.
Hey, il y a de la marge, hein. Ouais, c'est clair. Ouais.
Le CDI. Ah. Passons au CDI. Hey, parce que tant qu'on y est. Hein. Alors le CDI, bah écoute, tant qu'à faire, on va créer dans le contrat de travail des motifs de rupture prédéfinis et progressives. Ah. Alors moi je me pose une question parce que c'est un peu vague là dit comme ça, des ruptures, des modalités de rupture prédéfinies et progressives. Donc on peut sincèrement se penser, est-ce que c'est la fin du CDI? C'est-à-dire est-ce que on va introduire déjà dans le CDI, dans le travail qu'on va faire signer, sa rupture pour des raisons XY, voilà, internes à l'entreprise. Il y a des gens qui sont favorables à ça, hein, y compris voilà, Monsieur Pierre Cahuc par exemple parle d'un contrat unique, un faux CDI, hein, si vous voulez. Donc ça, c'est possible. Et par exemple, dans quelle mesure on peut mettre fin à un CDI? Bah, c'est inscrit aussi dans le code du travail, un motif de réorganisation, créer un motif de licenciement, un licenciement pour motif de réorganisation de l'entreprise dans les procédures de licenciement collectif, donc pour les adapter à leur contexte concurrentiel. Donc ça veut dire très clairement que vous ne pourrez plus aller au prud'homme ou devant le juge pour estimer que l'entreprise fait des bénéfices, donc elle licencie à tort, puisque bah oui, c'est une réorganisation, voilà, en provenance, en prévision de futur, d'un futur donc lié à la compétitivité en fait, hein, d'un futur qui serait supposé orageux, de la même manière que vous ne pourrez plus aller devant un juge pour dire attendez, c'est une filiale de telle maison qui gagne, qui engrange des milliards au niveau international. Donc voilà, donc ça. Franchement, avec ce programme-là, moi je dis que alors, ça va être génial pour les salariés.
Alors, Ludo, concrètement, une entreprise qui est dans le commerce, on va dire, hein, voilà, qui vend des biens et des services, surtout des biens, on va dire, elle sait depuis toujours qu'elle vend plutôt entre la période, on va dire, novembre jusqu'à février. Et donc, en février, elle peut dire on réorganise le travail parce qu'on vend moins, donc on licencie du personnel. C'est ça l'idée ?
Je ne sais pas, mais d'accord, ça pourrait être une idée, effectivement, c'est-à-dire pour soi-disant permettre une visibilité dans l'entreprise, une visibilité en termes de chiffre d'affaires, donc y compris pour les PME et les PME, mais ça peut aussi être un grand groupe qui licencie en prévision, parce que c'est dans son plan, parce que des fois c'est ça qui se passe, hein, puisque telle entreprise...
Qui licencie par exemple genre l'antenne parisienne ou l'antenne...
Exactement,
Londres,
qui réorganise, qui le ferme, et ce qui se fait vraiment tous les jours. Donc voilà. Donc c'est un programme joyeux qui va nous... voilà, nous faire du bien. Ah oui, et je voulais aussi parler du SMIG, parce que il faut savoir que M. Fillon n'aime pas le SMIG. Et je le dis parce qu'il l'assume pleinement. Dans son livre « Les Français peuvent supporter la vérité », c'est quelqu'un qui, lorsqu'il était au gouvernement, était contre le coup de pouce régulier du SMIG. C'est-à-dire qu'il préférait laisser ça à la négociation des partenaires sociaux.
Bravo.
Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a appliqué son programme de telle sorte que, à la fin, l'inflation a grignoté le SMIG régulièrement. Donc, en tant que François Fillon Premier ministre, les SMICards ont perdu du pouvoir d'achat. Je rappelle que Nicolas Sarkozy était le président du pouvoir d'achat. Et c'est le contraire qui s'est passé. Et lorsqu'il a quand même fallu donner un coup de pouce au SMIG, hein, sous la pression, notamment de Nicolas Sarkozy et d'autres, Monsieur Fillon a dénoncé une faute politique. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui estime que le SMIC grève, empêche l'emploi, en fait, hein, grosso modo, empêche l'embauche, favorise, voilà.
Donc en gros, il n'aime pas les pauvres et ça va être un peu le président des riches aussi, alors comme Sarkozy.
Hein. C'était mon point. C'est que, il reste les valeurs. Vous savez, Fillon, le catholique, qui est rigoriste, hein, presque, et sympathique, par ailleurs, comme ça, devant les caméras, et qui insiste quand même beaucoup sur la France, voilà, le modèle, le catholicisme, quoi, tu vois. Et c'est qu'en fait, quand on a un programme comme ça, quand quelqu'un, un candidat, insiste sur les valeurs, il faut bien imaginer que c'est un cache-sexe à destination des catégories, entre guillemets, populaires. Alors là, c'est pas tout à fait le cas, hein, parce que on s'adresse plus à une frange électorale un peu plus aisée, catholiquisée, mais que souvent, quand on parle des valeurs, c'est aussi un cache-sexe qu'on adresse aux catégories populaires pour en réalité mener une politique favorable aux plus riches. C'est quelque chose qui s'est déjà produit donc aux États-Unis, hein, sous l'époque de Reagan. Et vous savez, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on agite le chiffon de l'assistanat. C'est-à-dire du plus pauvre que soit, et surtout si l'assisté est plutôt un peu basané, vous voyez, un petit peu aux États-Unis, c'était les Noirs ou les Mexicains. Ici, ben, les foules d'assistés dans nos banlieues, ben, on va pas le dire, on lit pas, mais bon, quand même, ils sont un peu français, ils sont français récemment, enfin bref. Et donc, c'est ce public-là d'assistés, et le programme qu'on promeut, en termes de valeurs de la France, la France chrétienne, nanana, en fait, s'adresse à une catégorie de petits blancs déclassés, qui voient et qui vivent en fait dans ces quartiers, qui travaillent ou qui sont plus ou moins au chômage, et qui voient qui sont victimes de la pauvreté ou de la concurrence de gens de couleur ou d'émigrés de couleur. D'accord. Et c'est ce programme qu'a mené Reagan aux États-Unis. Monsieur Reagan a supprimé les allocations. Et bien entendu, il a baissé, d'un tiers, l'impôt sur la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, en détruisant ainsi le modèle social américain. Donc, est-ce que Monsieur Fillon ira jusqu'au bout de son programme ? Reste à voir. J'ai pas parlé de l'IVG, mais bien entendu que Alain Juppé n'était pas tout à fait idiot. Et il savait très bien que l'IVG ne faisait pas partie des priorités. C'est le moins qu'on puisse dire d'Alain Fillon, de Monsieur Fillon. Donc Monsieur Fillon est soutenu par toute une droite qui est issue, par toutes des associations qui sont issues de la Manif pour tous. Ça, tout le monde le sait. Et c'est quelqu'un qui n'a voté qu'une seule fois une déclaration de principe à l'Assemblée nationale pour rappeler le droit à l'IVG. Par contre, il a voté contre toutes les lois qui facilitaient l'IVG.
D'accord.
Que les choses soient claires, il faut lui accorder que la majorité de la droite, en général, a voté contre. Et donc, sur ce sujet, a un double langage évident.
Très bien. Merci Ludo. En tout cas, c'était très clair, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il fait peur, ce monsieur. Donc, même ceux qui n'aiment pas aller voter, il faut aller voter contre ce monsieur. Parce que franchement, là, j'ai peur que ce soit pire que Sarkozy. Déjà, Sarkozy était déjà dans le pire. Mais là, je crois que ça peut dépasser.
Hein. Ah, il vient pour faire ce que Sarkozy n'a pas fait.
Voilà, tout simplement.
Pour appliquer, mais on en reparlera, bien sûr.
Alors, on va passer aux annonces avant de laisser l'antenne à notre équipe qui vient derrière nous. Hein. Donc, première annonce, un préavis de grève a été déposé par Sud Éducation du 8 au 16 décembre à propos, effectivement, de ces collèges qui vont être en fusion bientôt. Donc, il faut absolument les soutenir de mille façons. Vous aurez l'occasion de voir les liens des sites sur notre page, notre site à nous, hein, donc modedemploi.net. Voilà. Je crois qu'il y avait une deuxième annonce, Ludo.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de mobilisation le 8 décembre pour le procès de Loïc, de Jolimôme. Voilà, on demande un report du procès. Loïc, c'est cet intermittent du spectacle de la compagnie Jolimôme qui avait été accusé de violence par un vigile qui, selon Loïc, l'avait frappé, en fait. Hein. Voilà, donc, et on attend toujours que la plainte de Loïc soit instruite, justement, la plainte pour violence de la part de ce vigile du MEDEF.
Très bien. Et je rappelle aussi que demain samedi, donc le 3 décembre, à 14h, à Stalingrad, il y a le grand rassemblement des quatre collectifs des chômeurs pour la grande marche des chômeurs entre Stalingrad et Place Clichy. Donc, il faut absolument être très très nombreux. Ce sera une façon pour nous de nous compter et de pouvoir résister à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Cette émission se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, ne lâchez rien. Bisous aux filles et poignées de mon garçon. Ciao.
Bonne soirée.
S'étendent des grands prés marécageux.